VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Un capitaine de l'armée congolaise a été tué par deux hommes armés de fusils de chasse dans le Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, théâtre depuis septembre de violences meurtrières. Le capitaine Sakua Kazadi a été tué par deux hommes armés chacun d'un fusil de chasse alors qu'il revenait d'une réunion de sécurité dans un village situé à 100 km de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a déclaré à l'AFP le lieutenant Anthony Malouchaï, le porte-parole de l'armée dans la région. Ancien havre de paix, le Kasaï s'est embrasé il y a un an après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamuina Nsapu qui s'était soulevé contre le pouvoir de Kinshasa. Les groupes armés en Centrafrique ont eu recours au viol et à des esclaves sexuels à travers le pays comme tactique de guerre pendant près de 5 ans de conflit, a dénoncé aujourd'hui dans un rapport à l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Les commandants des unités ont toléré les violences sexuelles commises par leurs troupes et dans certains cas semblent les avoir ordonnées ou y avoir participé eux-mêmes, affirme le document de 176 pages. De nombreux témoignages de victimes racontant dans le détail des viols à répétition chaque jour et des meurtres de proches, maris ou enfants renforcés par des entretiens avec des fonctionnaires, des policiers, des médecins qui étayent les accusations de Human Rights Watch. Au Togo, une autre manifestation est prévue ce jeudi, baptisée la Marche de la Colère. L'opposition togolaise veut ainsi rééditer le 5 octobre 1990, date du premier soulèvement populaire au Togo. Déjà hier, après des semaines de mobilisation, des milliers de Togolais ont manifesté à Lomé et en province pour exiger des réformes constitutionnelles. Au Niger, 5 soldats nigériens et 3 membres des forces spéciales américaines tués dans une embuscade près de la frontière. 2 autres soldats américains ont été également blessés dans cette attaque qui a eu lieu mercredi lors d'une patrouille conjointe dans le sud-ouest du Niger, selon des officiels nigériens et américains. On ne sait pas qui a tiré sur le béret vert et les forces appuyées par les États-Unis, a souligné un officiel américain. En Algérie, la récente diffusion par la télévision publique d'images extrêmement brutales et largement inédites de massacres durant la guerre civile des années 1990 a choqué l'opinion, certains dénonçant une opération de propagande du pouvoir. Cette guerre civile qui a traumatisé durablement l'Algérie a fait officiellement 200 000 morts, dont de nombreux civils victimes d'attentats ou de massacres à grande échelle imputés aux groupes islamistes, notamment au paroxysme des violences entre 1996 et 1998. Et puis en Côte d'Ivoire, le gouvernement veut améliorer les conditions de travail des militaires. Le Conseil des ministres de mercredi en a ainsi décidé. On ne
5 milliards de francs CFA, soit 7,6 millions d'euros, seront immédiatement dégagés, selon Bruno Koné, les porte-parole du gouvernement ivoirien. Ils serviront à la réalisation des travaux urgents dans les casernes militaires, notamment la construction et la réalisation des cuisines et des réfectoires. Le président Alassane Ouattara avait promis début août d'investir davantage dans les forces armées. La Côte d'Ivoire est secouée depuis janvier par plusieurs mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée qui ont revendiqué et obtenu des primes. Les anciens rebelles démobilisés aussi réclament leur part de butin. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs attaques contre des postes de police et de gendarmerie. Des séries de braquages ont aussi permis à des hommes non identifiés de voler des armes et de l'argent. Les autorités accusent d'anciens partisans de Laurent Gbagbo, l'ancien président jugé par la CPI à La Haye.
Voilà, c'était Eddy Isango. Alerte au tilapia, la FAO met en garde contre un virus lié à la consommation de ce poisson très prisé dans beaucoup de pays africains. Le Bénin, par exemple, vient d'interdire l'importation de tilapia venant de pays comme l'Équateur, la Colombie, l'Égypte, Israël et la Thaïlande. Solange Niamoulissa a joint Martin van der Knaap, chargé de la pêche et de l'agriculture pour le bureau régional de la FAO à Accra. C'est au Ghana.
En Afrique, il y a plusieurs pays qui se concentrent sur la production de tilapia du Nil. il y a les menaces de ce virus, donc il a bien le virus. Quand on importe le virus dans les étangs de poissons ou bien dans les cours d'eau, comme des lacs, des réservoirs, des fleuves, il y a une mortalité incroyable. C'est vraiment très contagieux. Il faut vraiment craindre que ça ne se passe dans trop de pays parce que la production de poissons se diminue directement parce que la mortalité s'augmente immédiatement. Et en ce qui concerne la sécurité alimentaire, il faut être prudent parce que beaucoup de gens dépendent de la production de tilapia en Afrique, pas seulement l'aquaculture et la pêche, mais aussi la transformation et la commercialisation de ces poissons.
Mais est-ce que ces virus est dangereux pour les personnes qui consomment les tilapia?
Par exemple, si le poisson est vivant, on le tue pour la consommation, il n'y a probablement pas de problème. Mais si le poisson est déjà mort, il ne faut pas le manger. Il ne faut pas prendre des risques. Mais ce qu'il faut éviter, c'est la panique. Par exemple, il y a déjà des pays qui ont fermé leurs portes pour l'importation du poisson. Et par exemple, du poisson congelé. Ce poisson est déjà mort, et probablement il n'y a pas de problème avec. Mais si on importe des poissons vivants, et on ne connaît pas l'origine de ces poissons, on peut obtenir des problèmes. Donc, il faut vraiment être prudent avec l'importation.
Mais du coup, est-ce que ces pays, ils ont raison d'interdire l'importation ou pas? Est-ce que c'est la solution?
Je ne crois pas que ce soit vraiment la solution, mais c'est une mesure de précaution. Donc, si, par exemple, ici au Ghana, si on continue à élever des poissons dans les étangs et les cages avec des géniteurs de tilapia locaux, il n'y aurait pas de problème. Mais dès qu'on importe des alevins, des frétins d'ailleurs, on ne peut pas garantir que ce poisson soit sans virus. Il vaut mieux fermer les frontières pour éviter des catastrophes.
Et qu'est-ce que la FAO recommande alors comme solution?
Nous sommes en train de préparer des projets pour qu'on puisse améliorer le suivi du poisson. On commence à introduire des cours de formation pour une meilleure organisation pour mieux connaître les symptômes, pour mieux connaître les conditions des poissons qui sont déjà affectés par la maladie. Comment reconnaître la maladie? Comment reconnaître les symptômes de ce virus pour qu'on évite la distribution de cette maladie?
Martin van der Knaap, chargé de la pêche et de l'agriculture au bureau régional de la FAO, c'est à Accra, au Ghana.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7 minutes. Le roi Salman d'Arabie Saoudite est arrivé hier à Moscou. Le souverain wahhabite effectue sa première visite officielle en Russie. Les précisions, Johnny Don.
C'est une visite officielle de 3 jours. C'est aussi la première fois qu'un souverain d'Arabie Saoudite se rend en Russie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Salman Ben Abdelaziz Al Saoud est arrivé hier en fin d'après-midi à Moscou avec une délégation de près de 1000 personnes. Le roi a été accueilli par la garde d'honneur et par un orchestre militaire. Une délégation amenée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères lui a souhaité la bienvenue sur le sol russe. La rencontre du président russe Vladimir Poutine et du roi Salman est prévue ce jeudi. Auparavant, le roi d'Arabie Saoudite doit se rendre à un forum d'investissement russo-saoudien. Selon le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine abordera avec le roi la question de la baisse de la production de pétrole, ainsi que la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'accent devrait être mis sur les efforts à faire pour parvenir à la résolution des conflits existants. Il n'est en outre pas exclu que la coopération militaire et technique soit à l'ordre du jour de leurs entretiens.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé aujourd'hui la libération de Hawija, l'un des 2 derniers bastions du groupe État islamique en Irak. J'annonce la libération de Hawija, a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron à Paris. Il n'y a plus que la bande frontalière à reconquérir, a ajouté le premier ministre irakien. L'administration Trump a demandé hier au Congrès américain d'approuver un plan d'aide de 29 milliards de dollars pour les victimes d'ouragans au Texas, en Floride et à Porto Rico. Le programme se compose d'un nouveau financement de 12,8 milliards de dollars pour les victimes de tempêtes et 16 milliards de dollars pour le programme fédéral d'assurance des catastrophes naturelles. Une troisième enveloppe de 576 millions de dollars est destiné aux régions de l'Ouest américain frappées cet été par d'importants feux de brousse. Merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.